Merci d'écouter Radio France Internationale à 13h temps universel, 15h ici à Paris. Merci d'écouter le nouveau journal de Gilles Moreau. Bonjour Gilles.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Dans l'actualité, un troisième jour de guerre entre Israël et l'Iran. Les hostilités déclenchées par le programme nucléaire iranien font des victimes dans les deux pays. L'Iran fait état de 128 morts pour vendredi et samedi. Côté israélien, au moins 13 morts au total. En Iran, l'armée israélienne vit surtout des sites militaires considérés comme stratégiques, mais aussi des installations pétrolières. Aux États-Unis, les opposants de Donald Trump ont manifesté en masse. Donald Trump qui convoite le Groenland où Emmanuel Macron, le président français, entame une visite. En France, Nicolas Sarkozy prend acte de son exclusion de la Légion d'honneur. L'ancien président rappelle que la Cour européenne des droits de l'homme doit encore se prononcer dans l'affaire des écoutes. Israéliens et Iraniens continuent de s'affronter au troisième jour d'un conflit qui a commencé vendredi avec l'attaque massive d'Israël. Aujourd'hui, les avions de combat israéliens ont bombardé des sites sensibles et des dépôts de carburant dans plusieurs villes iraniennes. L'armée israélienne a appelé les Iraniens à évacuer les zones à proximité d'installations militaires. Elle a aussi indiqué qu'elle avait frappé 80 objectifs à Téhéran dans des raids nocturnes ayant mobilisé une cinquantaine d'avions de combat, faisant dire sur le réseau X au ministre israélien de la défense que Téhéran brûle. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou, lui, ne cache pas qu'il veut frapper tous les sites du régime avec pour objectif d'empêcher l'Iran de posséder l'arme nucléaire. Il prévient aussi son ennemi qu'il paiera, je cite, un prix très lourd pour le meurtre prémédité de civils en Israël. Écoutons maintenant le témoignage d'une Iranienne, Tanaz, 42 ans. Elle vit juste à côté des dépôts de carburant de Shahran, situés au nord de Téhéran. Ils ont été frappés dans la nuit, provoquant un incendie très important qui finalement a été maîtrisé ce matin.
Je suis employée et chaque matin je dois aller au travail et malgré la situation actuelle, je continue d'aller au travail. La vie continue à peu près normalement. J'ai une mère malade qui devait être opérée cette semaine et son opération a été annulée. J'ai un ami qui vivait au second étage de l'immeuble où habitait le chef des gardiens de la Révolution qui a été tué dans les opérations israéliennes dans une frappe qui a détruit l'immeuble. Dire qu'on vise que les militaires n'a pas de sens. Comment je peux savoir qui sont mes voisins? Tout le monde vit côte à côte. Lorsque les Israéliens disent qu'ils visent les chefs militaires ou les centres sensibles, cela n'a pas de sens. Lorsqu'ils frappent les dépôts de carburant de Shahran dans le nord de Téhéran, moi je vis à côté et je suis affectée. J'espère que tout va redevenir normal et que la raison l'emportera.
Un témoignage d'une Iranienne recueillie par Siavosh Ghazi, notre correspondant à Téhéran. En riposte aux frappes israéliennes, l'Iran a lancé des séries de tirs de missiles sur le centre et le nord d'Israël. L'Iran qui fait état de 128 morts pour les journées de vendredi et de samedi. Côté israélien, on déplore au moins 13 morts depuis le début de la confrontation. Une nouvelle séance de pourparlers devait se tenir entre Américains et Iraniens ce dimanche à Masqat dans le sultanat d'Oman. L'Iran estime que ces négociations sont désormais dénuées de sens. Anne Verdaguer a recueilli le commentaire d'une spécialiste du dossier, Emmanuel Galichet. À ses yeux, le moment choisi par Israël pour attaquer ne doit rien au hasard.
Il y avait des pourparlers depuis quelques mois, depuis que Trump est arrivé au pouvoir aux USA. Il y avait un engagement de pourparlers avec déjà 5 réunions qui avaient eu lieu entre donc les États-Unis sous l'égide du sultanat d'Oman pour essayer de contenir le nucléaire militaire d'Iran. Et donc l'Israël a frappé avant ces derniers pourparlers, ils ont frappé au 61e jour. Trump avait donné 60 jours à l'Iran pour réagir à sa proposition. Et là, donc il y a une espèce d'accélération dans les contraintes qu'on essaye d'avoir sur l'Iran pour qu'il arrête son programme nucléaire militaire. En sachant qu'il a le droit, hein, puisqu'il a signé le TNP, le traité de non-prolifération, il a tout à fait le droit d'avoir un programme nucléaire civil.
Emmanuel Galichet enseigne la physique nucléaire au CNAM, c'est le Conservatoire National des Arts et Métiers. En France, ces mères de famille ne supportent plus de voir les enfants palestiniens mourir les uns après les autres. Un rassemblement est organisé ce dimanche aux Invalides, à Paris, à l'appel d'un collectif de mères. Comme d'autres collectifs, il appelle au cessez-le-feu, à la fin des massacres, à l'entrée de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza et aussi au respect des droits des enfants palestiniens. Céline Lebrun-Chat, défenseur des droits de l'homme, fait partie des maires à l'initiative de ce mouvement. Lou Ekal l'a rencontré.
Ce sont des tragédies. Elles arrivent chaque jour dans les familles gazaouis et elles ont poussé ces maires de France à s'unir.
Par exemple, celle de la pédiatre Ala El Najjar, qui a perdu 9 de ses enfants, qui a vu arriver le corps calciné de 9 de ses enfants à l'hôpital.
Ou l'histoire du petit Amrou, paralysé depuis qu'un morceau d'obus est logé dans son cerveau. Céline Lebrun-Chat, l'une des mères à l'initiative du mouvement, en parle avec émotion.
Il ne peut plus respirer, manger, parler. Il a été extrait des décombres, seul survivant, alors que sa mère enceinte avait été tuée, ainsi que son petit frère. Voilà le genre de tragédie dont on parle. Et aujourd'hui, on en a marre. On en a marre de voir ça sur nos écrans tous les jours. On veut que ça s'arrête.
Des milliers de mères ont déjà signé l'appel lancé par le collectif. Elles en avaient besoin, estime Céline Lebrun-Chat.
C'est l'idée de s'exprimer en tant que mère. Parce qu'en tant que mère, on porte un message, on donne la vie. Il y a eu ce désir de s'unir pour porter un message aussi humaniste qui va au-delà des clivages politiques. C'est un rassemblement qui sera pacifique. Il y aura voilà, une série de prises de parole de mères sur la situation que peuvent vivre aujourd'hui les mères, les enfants, les familles palestiniennes sous le génocide à Gaza.
Les mères appellent à venir vêtues de noir et blanc, symbole de deuil, de colère, mais aussi d'espoir.
Reportage à Paris de Lou Ekal. Il est le premier chef d'État étranger à mettre le pied sur ce territoire. Emmanuel Macron est arrivé au Groenland, territoire grand comme 4 fois la France et couvert à 80% de glace. Rattaché au Danemark, le Groenland est convoité par Donald Trump qui rêve de mettre la main sur ses métaux rares. Le Groenland n'est pas à prendre, a indiqué Emmanuel Macron, porteur d'un message d'espoir pour les Groenlandais, une population confrontée par ailleurs à la fonte des glaces accélérée. Il en sera question aussi lors de cette visite. Nouvelle catastrophe aérienne en Inde. 7 personnes ont été tuées dans l'accident d'un hélicoptère qui transportait des pèlerins hindous dans les montagnes de l'Himalaya indien. Quant aux obsèques des victimes de l'accident du Boeing d'Air India, jeudi à Ahmedabad, elles devaient débuter ce dimanche, ces obsèques, avec au moins 279 morts. C'est la pire catastrophe aérienne en Inde depuis 2014. C'est son avocat qui le fait savoir. Nicolas Sarkozy prend acte de son exclusion de la Légion d'honneur et il rappelle que la Cour européenne des droits de l'homme doit encore se prononcer dans l'affaire des écoutes. L'ancien président français s'est vu retirer la plus haute distinction française, sanction rarissime pour un ex-chef de l'État. Jusqu'à maintenant, il n'y avait eu que le maréchal Pétain. Cette sanction a été prononcée suite à la condamnation à 1 an de prison ferme pour corruption. Enfin, en football, le Paris Saint-Germain, champion d'Europe, a l'ambition de gagner le nouveau mondial des clubs. C'est son entraîneur Luis Enrique qui l'affirme avant le premier match ce soir contre l'Atlético Madrid à Pasadena, en Californie. Au-delà du volet purement sportif, avec ce nouveau format à 32 équipes, la compétition organisée aux États-Unis est une opportunité économique. Le club parisien a aussi l'ambition de faire grandir sa marque aux États-Unis. Il a pour cela ouvert une boutique éphémère près d'Hollywood. Reportage de Loïc Piala.
Le PSG n'a pas choisi l'endroit au hasard. Melrose est l'une des avenues les plus tendances de la ville, pleine d'enseignes de vêtements à la mode. C'est justement l'ambiance de sa PSG House, sa boutique éphémère. Beaucoup d'espace, mais peu d'articles et très peu d'articles de sport. Fabien Allègre, chef du marketing.
Les États-Unis est un marché clé d'un point de vue sponsoring, bien évidemment. On a créé un endroit où on ressent ce qu'est la marque du Paris Saint-Germain, parce qu'on ne parle pas que de football.
Le PSG a emmené ses trophées dans ses valises, la Ligue des Champions bien sûr, et cette coupe exposée vaut plus que tous les efforts marketing. Le Los Angeles Times, par exemple, ne suit que 2 clubs sur le début de la compétition, les 2 finalistes de la Ligue des Champions. Kevin Baxter écrit pour le Times.
Le PSG est beaucoup plus facile à vendre aux États-Unis maintenant. Pas besoin d'expliquer où joue Paris, il y a juste à dire vainqueur de la Ligue des Champions.
Claude Makélélé, capitaine du PSG juste avant l'arrivée du Qatar, a vu le club grandir.
On conçoit un club d'abord sur le terrain. Je pense que si Paris Saint-Germain n'avait pas les résultats de maintenant, il n'y aurait pas ça. Pour créer une marque, pour créer un style, il faut des résultats sur le terrain qui permet aux fans aussi de participer à l'évolution.
Un terrain, il y en a un dans cette PSG House, un terrain de 5 installé sur le toit. Loïc Piala, Los Angeles RFI.
Donc, entrée en lice ce soir du Paris Saint-Germain contre l'Atlético Madrid. Ainsi s'achève le journal. Merci d'avoir écouté. À suivre sur RFI, si loin, si proche.